read. Évangile de Luc, chapitre 8. Nous allons lire à partir de verset 4 jusqu'à 15. Évangile de Luc, chapitre 4, chapitre 8. À partir de verset 4. On va lire à partir du premier verset. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les douze étaient avec de lui, et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie dite de Magdala, de laquelle étaient sortis sept démons, Jeanne, femme de Chusa, intendante d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui assistaient de leur bien. Une grande foule s'étant assemblée et des gens étant venus de diverses villes auprès de lui, il dit cette parabole. Le verset 5. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur la roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Verset 7. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crûrent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Verset 9. Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il répondit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais pour les autres, cela leur était dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'ils n'entendent, qu'en entendant, ils ne comprennent point. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève leur cœur, la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps. Il succombe au moment de la tentation. Ceux qui tombaient parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par des soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Ils ne portent point de fruits qu'ils viennent à maturité. Ceux qui sont tombés dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec le cœur, avec un cœur honnête, est bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Que le Seigneur bénisse sa parole. Jésus parlait beaucoup dans les paraboles. La plupart des paraboles de Jésus se trouvent dans les trois évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc. Et des paraboles sont presque absentes dans l'évangile de Jean. Une parabole est une illustration, une histoire qui est conçue pour donner une leçon. Jésus les utilisait fréquemment et citait la culture, les normes et la situation commune de l'époque où il se trouvait, afin d'enseigner aux auditeurs des termes qu'ils comprendraient. Jésus a utilisé la parabole parce qu'elles ont provoqué la pensée et incité les auditeurs à participer plus activement, car ceux la considéraient le contenu ambigu des paraboles. L'encyclopédie juive déclare « Le sens simple de ces paraboles, cependant, a été perdu plus tard, et elles ont été prises pour des allégories et des mystères, surtout quand elles ont fait allusion aux attentes messianiques. Donc, il n'était pas sûr de parler en public. Une autre raison possible pour les paraboles, c'est qu'elles sont des histoires mémorables qui pourraient être transmises oralement pendant des années avant que cela soit écrit. Et quand Jésus commence à enseigner par la parabole du semeur, ses disciples avaient la même question comme nous. Regardons ensemble Matthieu 13. Matthieu, évangile de Matthieu, chapitre 13, ça parle de même parabole. On va lire à partir de verset 10 jusqu'à 17. Matthieu 13, 10 à 17. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître le mystère du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même celui qui l'a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Isaïe, vous entendez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point. Vous regardez de vos yeux, et vous ne verrez point, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent leur oreille, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Verset 16, « Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez, ne l'ont pas entendu. » Ces paroles, ce n'est pas simplement Jésus, il a parlé à ce peuple juif, à ses disciples, même aujourd'hui, ce matin, il parle à nous. Nous sommes si privilégiés de connaître le mystère des cieux, le mystère de Dieu. Comme Jésus continuait de pouvoir, aux besoins d'une foule de personnes, il fit quelque chose qu'il n'avait pas fait auparavant. Pour la première fois dans l'évangile de Matthieu, Jésus raconta des paraboles. Ça, c'est la première fois que nous voyons que Jésus applique les paraboles. Le mot parabole vient de deux mots grecs, para et ballo, qui signifie jeter le long d'eux. Une parabole, comme une illustration, établit une comparaison entre une vérité connue et une inconnue. Elle les met l'un à côté de l'autre. Dans le premier de sept paraboles, dans ce chapitre de Matthieu 13, nous voyons qu'il y a sept paraboles. Ça, c'est la première parabole. Dans le premier de sept paraboles de ce chapitre, Jésus parla d'un semeur qui semait de la semence dans son champ. Les quatre premières paraboles ont été annoncées à la multitude de personnes. Les trois dernières n'ont été données qu'aux disciples. Les laissant, et eux et nous, interpréter l'autre avec les clés qu'il avait déjà données. La première parabole concerne un semeur qui a planté sa graine dans les quatre types de sols différents. Dans cette histoire, l'accent est mis sur le résultat de l'ensemencement, car la semence tomba dans quatre sortes de sols différents. La première, c'est le long du chemin, et deuxièmement, dans l'endroit pierreux. Troisièmement, parmi les épines. Et quatrièmement, et dans la bonne terre. Le semeur obtint quatre résultats différents. Jésus raconta ce parabole et donna l'explication pour montrer qu'il y avait plus d'une façon de répondre à la parole de Dieu. Luc mentionne qu'une grande foule était assemblée, constituée de gens de plusieurs villes. Dans cette même foule, devait se trouver des gens qui répondraient de l'une ou l'autre des quatre façons que Jésus allait illustrer dans sa parabole. Jésus donnait peut-être cette parabole afin d'avertir ceux qui écoutaient des obstacles qui allait s'élever devant eux. Avant même que nous étudions cette parabole de semeur que Jésus enseigna à ses disciples, nous allons nous arrêter un moment pour considérer ces choses. Je suis conscient de ce fait que tous ceux qui se trouvent ici ce matin, nous ne sommes pas tous des personnes qui connaissent Jésus-Christ comme notre sauveur personnel. Donc tous ceux qui se trouvent dans cette salle ne sont pas essentiellement des chrétiens. Même si vous êtes né de parents chrétiens ou même baptisé dans une église en tant qu'enfant, vous dites que vous êtes des chrétiens depuis très longtemps. Vous venez ici tous les dimanches, pour écouter les prédications, chanter des cantiques, participer dans les réunions de prière, donner les offrandes. Vous pratiquez votre religion chrétienne très religieusement. Et si vous n'avez pas Jésus dans votre vie, il n'y a pas de fruit dans votre vie, vous devrez alors consulter votre ORL spirituel, c'est-à-dire Dieu. Dieu dit, vous entendrez de vos oreilles et ne vous comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Cela, c'était le cas des Juifs à l'époque de Jésus qui rejetaient la lumière. Jean dit dans son évangile, en elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres l'ont point reçu. En même temps, Jésus dit, mes brebis entendent ma voix, je le connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. N'avez-vous jamais posé cette question, suis-je un disciple de Jésus ou un croyant avec un surnom chrétien? Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi, ils tremblent, dit Jacques dans son épître. Un disciple de Jésus suit son maître et désire faire tout ce qu'il ordonne de faire. Il lui ressemble, il aime la lumière, il aime la vérité, il connaît sa voix, il aime sa parole. Dans sa réponse, Jésus fait la distinction entre la foule incrédule et le disciple croyant. Un échantillon représentatif de la nation d'Israël le rejetait évidemment. Il ne serait pas autorisé à connaître les mystères ou le secret du royaume des cieux, tandis que ses vrais disciples seraient aidés à comprendre. Si nous sommes des vrais disciples de Jésus-Christ, nous serons aidés à comprendre par l'Esprit Saint ce matin. Regardez le verset 12. Quand on donnera à celui qui a, il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Cette parole de Jésus est parfois difficile à comprendre. C'est difficile parce qu'on l'on essaie de comprendre hors de son contexte. Nous rencontrons cette difficulté quand nous sortons un verset hors de son contexte. Pour moi, c'était difficile à comprendre cette parole. Les disciples avaient la foi en ce Seigneur Jésus. Par conséquent, on leur donnerait la capacité d'avoir plus. Ils recevraient plus de lumière. La nation juive, d'autre part, avait rejeté la lumière du monde. Par conséquent, ils n'étaient pas seulement empêchés de recevoir plus de lumière. Ils perdaient le peu de lumière qu'ils avaient. La lumière rejetée et la lumière niée. Par sa lumière, nous voyons la lumière, dit le psalmiste. La parabole a été annoncée ici à une grande multitude, puis expliquée aux disciples seulement. Regardons le verset 5 à 8 de Luc. Luc 8, verset 5 à 8. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il la semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait pas d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crûrent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. La parabole parle d'un semeur, la semence, et quatre types de terre, et quatre résultats. Et le Seigneur conclut sa parabole en disant que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Mais ses disciples lui demandèrent ce qui signifiait cette parabole. Si nous n'avons pas de l'explication, nous nous posons peut-être la même question. Savez-vous comment David prie en ouvrant la parole de Dieu? Il dit, « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. » Il ne suffit pas de voir des yeux et des oreilles. Tout le monde a des yeux et des oreilles, mais tout le monde ne voit ni n'entend ce que le Seigneur veut nous dire. Que le Seigneur enlève les écailles de nos yeux ce matin. Regardez le verset 14. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez pas. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles. Ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne convertissent et que je ne les guérisse. Le Seigneur nous donne la cause de cet aveuglement et surdité spirituelle. Pourquoi nous ne voyons pas la parole de Dieu comme il faut? Pourquoi même en étant ici, assis dans cette salle, nous entendons pas la parole de Dieu parfois. C'est une affaire de notre cœur, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Le Seigneur dit, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Est-ce que nous sommes insensibles devant la parole de Dieu? Est-ce que nous sommes insensibles devant la parole de Dieu? Que le Seigneur nous donne un cœur sensible pour recevoir sa parole. Le verset 5, un semeur sortit pour semer de la semence. Nous pouvons être sûrs que le semeur est le Seigneur Jésus lui-même ou ses disciples qui prêchent la bonne nouvelle du royaume de Dieu. La semence est la parole de Dieu qui tombe sur la terre afin de donner du fruit. La semence est la même qui tombe sur quatre types de sol pour donner quatre différents résultats. Le premier, nous allons regarder le premier type de sol. La Bible nous dit que c'est le long du chemin. Le long du chemin. Regardez le verset 5. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Regardez le verset 12, un peu plus tard. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Pour qu'une graine pousse dans le sol, elle a besoin d'un sol qui soit labouré et humide, afin que la graine puisse bien s'incruster dans le sol, afin de se développer. Nous sommes dans le printemps, nous avons tous un peu d'expérience, comment une graine peut pousser dans le sol. Mais ici, nous voyons qu'une partie de la semence tombe le long du chemin. Le semeur, il sème le grain. Et je ne sais pas, beaucoup de personnes ici aujourd'hui, ils peuvent comprendre c'est quoi le travail d'un cultivateur. Qu'est-ce qu'il fait un cultivateur qui cultive un agriculteur? Et il devrait certainement avoir un sac qu'il porte. Et avec la main, elle devrait jeter les graines par terre. Et ici, nous voyons qu'une partie de la semence tomba le long du chemin. Dans cette partie du monde où nous vivons aujourd'hui, toutes ces choses sont peut-être étranges pour nous. Surtout si vous avez moins de 30 ans. Cette partie de la terre n'est pas du tout adaptée pour que la semence puisse devenir une plante. Si ça tombait sur le long du chemin, la terre n'est pas du tout adaptée puisque la semence puisse devenir une plante. Le chemin au bord d'un terrain agricole est bien souvent sec et entassé, dû au fait que beaucoup l'utilisent pour marcher ou traverser le champ. C'est un petit chemin où tout le monde devrait emprunter pour traverser le champ. Donc, comme il marche, la terre est entassée et ce n'est pas adapté pour une semence. Le chemin au bord de la terre, en fait, cet endroit est trop exposé à tous. Les graines sont foulées aux pieds des passants et les oiseaux viennent aussitôt pour manger la semence. Il n'y a aucun problème avec la semence, mais il y a un gros problème avec la terre où cette semence est tombée. La semence est la même. Cette terre qui signifie le cœur qui reçoit la parole de Dieu n'est pas une terre cultivée. C'est un terrain aride et endurci par les adversités de la parole de Dieu. Ce n'est pas un champ ou un jardin fermé aux passants. Parfois, on peut voir un petit panneau qui dit que jardin ou privatif ou un parc privatif. Ce n'est pas le cas. Tout type de personnes traversent ce champ, ils fouleront et écraseront la semence. Et nous, mes frères et sœurs en Christ, est-ce que notre cœur est cultivé pour recevoir la parole de Dieu? Sommes-nous venus ce matin avec un cœur bien préparé pour recevoir la parole de Dieu? Et les préparations, ça fait bien avant qu'on entre dans cette salle. Je profite pour dire que est-ce que nous préparons la veille pour venir adorer notre Seigneur, pour recevoir la parole de Dieu, pour écouter la parole de Dieu? Est-ce que notre cœur est en paix pour recevoir la parole de Dieu? Ou on vient comme si nous sommes des passagers qui montent dans un train, qui descendent après quelques stations? Quel est l'état de notre cœur? Je me souviens quand mon fils était dans une petite section, et quand il commençait l'école, nous étions pour l'accompagner pour le premier jour de son classe. Et le professeur, il a fait demander les enfants de faire la queue et garder le silence. Ils n'ont pas encore entré dans la classe. Ils devraient garder le silence. Et il nous a expliqué, il expliquait aux parents, la classe ne commence pas dans la chambre quand il entre, mais bien avant. Il devrait être préparé pour recevoir ce que le professeur va leur enseigner. Et parfois, nous trouvons qu'on entre et on court comme Marthe, de droite à gauche. On parle avec les gens, mais nous ne sommes pas dans un état pour recueillir, pour être assis calmement, pour recevoir la parole de Dieu. Est-ce que nous avons tous éteint pour venir écouter la parole de Dieu? Si on peut garder le téléphone ouvert, parce qu'on devrait recevoir un message important, notre cœur, il n'est pas... Nous sommes ici, mais notre cœur sera toujours... Quand est-ce que le téléphone va sonner? Même si, est-ce qu'il y a un appel plus grand que l'appel du Seigneur? Nous devrions éteindre tout notre dérangement qui peut nous causer d'être dérangé pour écouter la parole de Dieu. Quand notre cœur a reçu la parole de Dieu, avons-nous fixé des clôtures autour du champ afin de protéger la semence, pour éviter que les personnes traversent ce jardin de Dieu. On vient à l'église, nous sommes des églises, de l'église, et nous écoutons la parole de Dieu. Une fois que nous quittons, après avoir écouté la parole de Dieu, est-ce que nous avons fixé les clôtures ou ça reste un terrain ouvert, puisque n'importe qui, n'importe quelle pensée peut traverser notre esprit pour être foulé par des gens? Combien de fois, après avoir écouté la parole de Dieu, plusieurs avaient, avec leurs pensées charnelles, traversé notre cœur. Le champ ouvert à tout vent et non clôturé et foulé sous leurs pieds ce qu'on a reçu. Je pense à Psaume 1 qui dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. » Donc l'essentiel est d'être séparé du monde pour recevoir la parole de Dieu. Là, il devrait, même s'il devrait passer devant les moqueurs, les méchants, il ne fait pas attention, mais il médite la parole de Dieu jour et nuit. Et nous portons la parole de Dieu dans nos cœurs. Nous devrions clôturer ce jardin, ce champ, puisque n'importe qui ne peut pas passer pour fouler ce que nous avons reçu. Et deuxièmement, nous voyons dans ce verset, et les oiseaux du ciel la mangèrent. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. La semence qui tombe dans le long du chemin est aussi enlevée par les oiseaux du ciel. Quand la parole de Dieu est prêchée, le diable tremble, mais on n'est pas conscient. Nous ne sommes pas conscients de ça. Quand la parole de Dieu est prêchée, le diable tremble. Il est, je pense, plus affecté que les chrétiens qui sont assis dans les bancs, dans l'église de Christ. Le diable qui est plus affecté, il a peur que les pécheurs croient à la parole de Dieu et se soient sauvés. Ce n'est pas sa but. Le diable, il veut détruire les enfants de Dieu. Le diable, il veut pas que les hommes qu'il met leur confiance en Seigneur Jésus-Christ et acceptent le salut. Donc il fait tout pour enlever la parole de Dieu qui était semée dans notre cœur. Le diable, il fait tout pour enlever ce que nous avons reçu dans notre cœur. Si vous pensez que vous êtes un visiteur depuis de nombreuses années qui traversait la parole de Dieu une fois par semaine dans une église, je dois vous dire que vous êtes dans le danger. Si vous pensez que vous êtes un visiteur depuis de nombreuses années qui traverse la parole de Dieu une fois par semaine dans une église, je dois vous dire que vous êtes dans le danger. Si notre cœur peut se ressembler à ce morceau de terrain le long du chemin, nous devrions sérieusement réfléchir quand nous recevons la parole de Dieu. Posons cette question: quel type de terrain est mon cœur quand je reçois la parole de Dieu? Deuxièmement, la parole tomba dans l'endroit pierreux. Verset 6 de Luc 8, le verset 6. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Et le Seigneur donne l'explication dans le verset 13. Ceux qui sont sur le roc, ce sont qui, lorsqu'ils entendent la parole, ils reçoivent avec joie. Mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps, ils succombent au moment de la tentation. Ce deuxième type de terrain est rocailleux et évidemment sec. La pluie tombe même dans ce terrain, mais il ne peut pas garder l'eau pour longtemps. Dans ce type de terrain, une petite plante peut pousser au lever du soleil. Elle fleurit et meurt avant le coucher du soleil. Parfois, il y a des petites plantes qui poussent. Ils n'ont plus, comme le gourde de Jonas. Une plante pousse autant en-dessus du sol qu'au-dessus. Les racines sont très importantes pour les plantes et les arbres. Et nous voyons encore dans l'image de Psaume 1, où il dit qu'ils sont comme un arbre qui est planté près de courants d'eau. Et parfois, on voit les racines des arbres très profondes qui descendent pour boire de l'eau du courant, d'une fleuve. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. La vie chrétienne se construit plutôt à l'intérieur, dans la profondeur du cœur d'un chrétien. Et parfois, on peut avoir la ressemblance, on peut rassembler des autres chrétiens, on peut faire des choses comme les autres le font, on peut s'habiller comme les autres, on peut faire beaucoup de semblants. Et parfois, on peut tomber dans cet tourbillon, une culture chrétienne. Avec cette culture chrétienne, on peut assister le culte le dimanche matin, ou même le mardi soir, où on peut assister à toutes les réunions. Mais la vie chrétienne se construit à l'intérieur, dans la profondeur de cœur. Un terrain pierreux et rocailleux, nous savons que ce n'est pas du tout adapté pour qu'une semence puisse germer et devenir une plante. Ce type de personnes a entendu la parole aussi comme les autres, mais elles n'ont pas laissé la parole les briser. Ils ont un cœur comme un roc. Leur cœur est si dur que la parole ne peut prendre racine. Ils sont restés impénitents. Aucun encouragement, c'est-à-dire l'humidité, a été donné à la semence dont ils se flétrissent et meurent. Peut-être qu'ils ont fait une brillante profession de la foi au début, mais ce n'est pas été réel. Ce n'est pas été sincère. Il semblait y avoir de la vie, mais il n'y avait pas de racines sous la surface. Quand les ennuis sont venus, ils ont abandonné leur foi chrétienne. Tant que le soleil n'était pas au-dessus de la tête, ça va, il brillait comme toutes les autres plantes. Il germait, mais il n'a pas pu prendre la racine. La parole de Dieu n'a pas pu prendre la racine dans le cœur de ce type de personnes qui sont leur cœur comme un rocher. Savez-vous ce que le Seigneur vous dit ce matin? Si votre cœur est de ce type de sol, du sol, je lis de Ézéchiel 36, 25 à 26, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suivez mon ordonnance et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Pour observer et pour pratiquer la loi, nous avons besoin d'un cœur de chair, pas un cœur de rocher, un cœur de roc. En Jérémie 23, 29, le Seigneur dit, « Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc ?» Donc, le cœur devrait être brisé. Si le cœur est comme un roc, il a besoin d'être brisé pour recevoir la parole de Dieu. Et le Seigneur, il est capable de le faire. Même si notre cœur, il est comme un roc, comme un rocher, dur, le Seigneur, la parole de Dieu, c'est comme un marteau. il peut briser notre cœur dur. Et troisièmement, la semence tomba parmi les épines. Le verset 7. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et étouffèrent. Regardez ce que le Seigneur donne comme explication, le verset 14. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Ils ne portent point du fruit qui vient à maturité. Les auditeurs de terrain épineux semblaient s'entendre bien pendant un certain temps. Mais ils ont prouvé qu'ils n'étaient pas des véritables croyants par leur incapacité à aller stable dans leur vie. Les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie ont pris le contrôle et la parole de Dieu a été étouffée dans leur cœur. Je pense que nous sommes tous sincères pour écouter la parole de Dieu. J'en doute pas. Mais on a des autres problèmes. Nous sommes dans le monde. Nous avons le souci, nous avons nos ambitions. Nous avons nos plaisirs aussi. Nous cherchons nos plaisirs. Et nous cherchons la richesse. Parce que le monde, il nous tente constamment. Et donc, la parole de Dieu qui tombe dans la terre qui a des épines, il peut pousser pendant quelques temps, mais après, ils sont étouffés par le souci de la vie, par le plaisir de la vie et de la richesse de ce monde. Quelqu'un dit que Dieu créa la rose et l'homme créa les épines. Depuis le péché, les épines dans la nature ou quant à la vie a toujours existé. Dieu créa un monde parfait et l'homme, par sa désobéissance, il a créé l'épine pour lui-même. Et aujourd'hui, nous sommes obligés de vivre avec les épines. Regardons l'attitude d'un disciple de Jésus dans ces versets. 2 Corinthiens 12, 5 à 10. 2 Corinthiens 12, 5 à 10. C'est l'apôtre Paul. Regardez son attitude. Nous avons tous, il n'y en a pas un qui n'ait pas des épines dans la vie. Nous avons tous des épines qui nous font mal. Mais regardons l'apôtre Paul. Le verset 5, « Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas insensé, car je dirais la vérité, mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi, ou à ce qu'il entend de moi, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Trois fois j'ai prié le Seigneur d'éloigner de moi. Il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse, et je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans la calamité, dans la persécution, dans la détresse pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est très encourageant, n'est-ce pas? Parce que si nous venons et nous sommes assis ici avec nos épines, qui peut étouffer la parole de Dieu. Et l'apôtre Paul, il avait, mais il n'avait pas ses yeux sur son écharpe. Il n'avait pas ses yeux sur ses problèmes, sur ses difficultés, mais il avait ses yeux, son regard sur Christ. Puisque Christ peut être glorifié dans toutes ces choses. Et en Luc 10, 38 à 42, je vais lire pour vous, il y a le souci de la vie. Je pense que nous avons tous le souci de la vie. Ah, qu'est-ce que je vais faire dans ma vie? Est-ce que je vais trouver un travail? Est-ce que je vais passer le bac? C'est demain le bac, je crois. Est-ce que je vais passer le bac? Est-ce que je vais trouver une maison? Est-ce que je vais trouver un époux ou épouse? Nous sommes tous ce problème de souci de la vie. Il y avait une femme et... regardons ce que Jésus il a dit à cette femme. Je lis de Luc 10, 38. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village. Il y a une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seul pour servir. Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part et qui ne lui sera pas ôtée. » Parfois, les gens, ils viennent à l'église pour trouver quelque chose aussi. Ça existe des chrétiens qui vont de l'église à une autre église, ils cherchent soit une femme, soit le travail, soit des choses. Mais pour quelle raison nous venons? Pour quelle raison nous venons au Seigneur? Est-ce que c'est pour être assis au pied de Jésus, pour entendre sa parole? Nous venons avec notre tête pleine de soucis? Souci de la vie. Je sais que les sœurs, ils sont plus au souci pour qu'est-ce qu'on va faire pour le repas pour ce midi. Et le frère, il peut rigoler, il peut rire, mais ce n'est pas leur souci souvent. C'est les sœurs qui devraient penser qu'est-ce qu'on fait pour midi, qu'est-ce qu'on fait pour soir. Souci de la vie. Mais les hommes, ils sont des autres soucis, ils ne partagent pas si facilement. Mais en tout cas, l'être humain, il a des soucis. Il vient avec des soucis. Mais ce que le Seigneur dit, tu t'inquiètes et tu agites pour beaucoup de choses. Est-ce que ce matin, quand nous sommes assis ici, nous sommes inquiets et nous agitons pour beaucoup de choses, ou nous avons la seule envie d'être assis au pied de Jésus pour entendre sa parole? Est-ce que nous sommes capables de mettre tout à côté pour dire que lui l'occupera de moi? Il occupera de moi. Est-ce que nous avons cette attitude? Le Seigneur dit à Marthe, 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 tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Et une autre chose que ce verset parle, les richesses et les plaisirs de la vie. Les richesses et le plaisir de la vie. Parfois, on peut être dépravé ou privé de la communion chrétienne à cause de la richesse ou les plaisirs de la vie. On peut rater une réunion parce qu'il y a quelque chose de plus intéressant ailleurs. Je peux sacrifier. Souvent, je pense que nous, les enfants de Dieu, on sacrifie le Seigneur premièrement. Quand il faut faire le choix, on sacrifie le Seigneur premièrement. S'il faut choisir entre une réunion de prière ou autre chose, c'est l'Église qui est sacrifiée premièrement. Nous avons cette tendance naturellement. Et on peut trouver mille prétextes. Je devrais étudier, je devrais jouer, je joue. On peut avoir mille raisons, vous le savez. Et souvent, on sacrifie le Seigneur. Parce qu'on n'a pas cette crainte de Dieu. Marc 10, 17 à 22. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. « Bon maître, lui demandait-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Cet homme, il vient, on dit que c'est un homme riche, il vient, il se jette à genoux devant lui dans une posture d'adoration, comme nous ce matin, et on dit, il dit, « Bon maître, lui demandait-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon ?» Parfois, on peut dire, Seigneur, Seigneur, on peut louer le Seigneur, on peut faire beaucoup de choses, mais si nous ne faisons pas la volonté de Dieu, et chaque enfant de Dieu, il est censé de connaître la volonté de Dieu, manifestée dans sa parole. Et souvent, on fait semblant de, comme si on ne connaît pas, on cherche la réponse avec la Bible. On cherche la réponse avec des autres chrétiens. C'est quoi la volonté de Dieu pour moi? Mais Dieu, il a manifesté très clairement dans sa parole. Et il demande, le Seigneur, il lui répond, pourquoi m'appelles-tu bon? Si nous ne faisons pas la volonté de Dieu, pourquoi nous devrions appeler le Seigneur, Seigneur? Le Seigneur, le sens du Seigneur, c'est lui au-dessus de tout. Mais parfois, je pense qu'on utilise ce mot sans même comprendre le sens, le vrai sens, quand on appelle le Seigneur le Seigneur. Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais le commandement. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignage, tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. Il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Et Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Et l'état de cet homme, c'était. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. C'était l'état de cœur de cet homme. Notre richesse, notre bien, ça peut nous empêcher de venir vers Dieu, d'approcher Dieu, pour écouter la parole de Dieu. Et parfois Dieu, il nous a bénis. Je pense que nous sommes tous bénis dans cette église. Et nous avons des biens. Et parfois, Dieu, il nous bénit en donnant une voiture. La voiture, c'est simplement pour déplacer. Et combien de fois nous pouvons utiliser cette bénédiction comme une bénédiction pour nous? Et combien de fois Dieu nous bénit en donnant une femme, ou un mari, ou un enfant, une famille? Et combien de fois nous utilisons cette famille comme une malédiction pour ne pas venir vers Dieu? Et bien souvent, je pense que nous devrions nous poser cette question. Qu'est-ce que j'ai fait avec la bénédiction que Dieu m'a donnée? Suis-je en train d'utiliser pour sa gloire? Ou je suis en train d'utiliser pour autre chose? Pour me glorifier? Je pense que s'il y a quelque chose qui peut nous empêcher d'approcher Dieu, nous devrions couper cette chose et jeter dans notre vie. Et le Seigneur, il dit que vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Si nous possédons des choses qui peuvent nous empêcher d'écouter la parole de Dieu et obéir la parole de Dieu, nous devrions donner ces choses, débarrasser ces choses. Et quatrièmement, et cette semence a tombé dans la bonne terre. Verset 8 de Luc 8. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Le verset 15, regardez ce que le Seigneur il a dit. Ce qui est tombé dans la bonne terre, et ce sont ceux qui, ayant entendu la parole de Dieu, parole, avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Est-ce que nous sommes honnêtes ce matin devant la parole de Dieu? Est-ce que nous sommes sincères? Est-ce que nous retenons la parole de Dieu? Est-ce que nous efforçons pour retenir la parole de Dieu dans notre cœur? Le psalmiste il dit que je garde ta parole dans mon cœur, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Telle est la puissance de la parole de Dieu. Est-ce que nous retenons la parole de Dieu? Le bon terrain représente le vrai et noble croyant dont le cœur sont nobles et bons. Ils ont non seulement reçu la parole, mais ont permis que leur vie en soit impactée. Quand nous entendons la parole de Dieu, quel impact la parole de Dieu a sur notre vie? Est-ce que nous sommes impactés? Est-ce que nous sortons de cette salle impactés par la parole de Dieu, influencés par la parole de Dieu? Mais parfois, c'est marrant de voir, une fois qu'on a franchi la porte, seuil de la porte de l'église, notre conversation change tout de suite. Même pas après 5 minutes, ça change radicalement. On peut parler de foot, on peut parler de rugby, on peut parler de la marché, on peut parler de plein de choses. Mais nous n'allons pas parler de la parole de Dieu juste après que nous avons entendu la parole de Dieu. Mais pourquoi? Les gens qui sortent de la stade de France après un match, ils parleront pendant 1 heure ou même pendant 3 jours la parole de Dieu. Tel est cet impact. Mais les enfants de Dieu, ils savent combien c'est précieux la parole de Dieu. Ils comprennent très bien. Mais ils ne parleront pas. Ça veut dire qu'il n'y avait pas un impact. Il n'y avait pas un impact. Ce n'est pas que le sol était dépourvu de tous les éléments trouvés dans les 3 autres types de sol. Ce sol, certainement, il y avait des pierres, il y avait des cailloux, il y avait des petits rochers. Il y avait peut-être l'épine aussi. C'était pas, quand on dit la bonne terre, le cœur peut parfois avoir tous ces éléments. Mais il faut être honnête, pour recevoir la parole de Dieu, il faut tout faire puisque la parole de Dieu peut enraciner dans le cœur pour que ça devienne une plante, pour porter le fruit. Regardez en acte 17, acte chapitre 17, 10 à 11. Moi, je vais lire, le temps est avancé. Aussitôt, les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Mais on demande pourquoi. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Les Bériens étaient trouvés nobles, des chrétiens nobles, parce qu'ils examinaient. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Et il examinait chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Donc ils vérifiaient la parole de Dieu. Certainement, ils parlaient, les Bériens, c'est une communauté d'une petite église. Et certainement, ils discutaient, ils parlaient avec des autres chrétiens pour demander s'ils avaient le doute, ils posaient des questions, ils partageaient leurs pensées sur cette parole qu'ils ont entendue. Et c'est pourquoi il croissait de jour en jour. Pour terminer, je vais lire de 1 Pierre 1, 23-25. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Nous avons la parole de Dieu qui est incorruptible, qui demeure éternellement. Et c'est à nous de préparer notre cœur pour recevoir cette parole merveilleuse. Le Seigneur, il attend pour ouvrir le chemin pour nous, pour faire de grandes choses pour nous. Mais parfois, nous ne sommes pas l'auteur pour laisser la parole agir dans notre cœur, pour laisser la parole être enracinée dans notre cœur, ancrée dans notre cœur, et que le Seigneur nous aide à garder notre cœur comme la bonne terre qui a donné le fruit pour sa gloire. Prions.